Dans la série que nous suivons sur David depuis quelques mois, dans les livres bibliques de 1 et 2 Samuel, nous arrivons ce matin sur un texte qui peut sembler particulièrement ardu. Et en le lisant, en le relisant, je me suis d'abord demandé, mais que peut-on dire à partir de ce texte? Qu'est-ce que Dieu aimerait que nous puissions en retirer pour notre vie personnelle, notre vie d'église? Et pourtant, nous savons que l'Écriture nous était donnée pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger. Et je veux croire que le texte de ce matin aussi sert à ce but. La parole de Dieu tout entière est là pour nous dire quelque chose de ce que Dieu veut communiquer à ses enfants. Mais quel est l'enseignement du texte de ce matin? Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles au deuxième livre de Samuel, au chapitre 10. Nous allons lire une histoire qui se passe entre Israël et un peuple qui s'appelle Ammon, les Ammonites, qui sont situés de l'autre côté du Jourdain, un territoire sur lequel il y a des tribus israélites, de nombreux israélites qui vivent, ce qui crée des animosités entre eux, animosités qui ont pu être vaincues finalement entre le roi David et le roi Ammonite, Nahab. Il s'avère que ce roi Ammonite décède et nous allons lire maintenant ce qu'il se passe. 2 Samuel chapitre 10. Quelque temps après, le roi des Ammonites mourut et Hanoun, son fils, régna à sa place. David se dit « Je veux témoigner de la bonté au jeune roi comme son père m'en a témoigné. » David lui envoya donc certains de ses hauts fonctionnaires pour lui présenter ses condoléances à l'occasion de la mort de son père. Et lorsque ceux-ci arrivèrent au pays des Ammonites, les dirigeants de ce peuple dirent à Hanoun, leur souverain, « Crois-tu que ce soit pour honorer la mémoire de ton père que David t'envoie des gens t'adresser des condoléances? N'est-ce pas plutôt pour reconnaître et espionner la ville afin de la détruire ?» Alors Hanoun s'empara des ambassadeurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et leur fit couper les habits à mi-corps jusqu'en bas du dos, ou d'autres versions disent jusqu'aux fesses, puis il les renvoya. Ceux-ci en furent si honteux que lorsqu'on informa David de ce qui s'était passé, il envoya des messagers à leur rencontre pour leur faire dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et vous reviendrez ensuite. » Les Ammonites comprirent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Alors, ils envoyèrent des hommes pour enrôler à leur solde 20 000 mercenaires chez les Syriens de Beth-Rehob et de Tsoba, 1 000 hommes chez le roi de Maka et 12 000 chez celui de Tob. Et quand David l'apprit, il envoya contre eux Joab à la tête de toute l'armée des soldats de métier. Et ensuite, nous lisons le récit d'une bataille qui s'engage. Les Ammonites se rangent en bataille, font front, encerclent Joab. Joab divise son armée en deux avec son frère Abishai. Chacun essaye de vaincre d'un côté. Finalement, ils réussissent à faire fuir cette coalition armée. Mais la coalition armée ne se laisse pas faire. Les Syriens, verset 15, voyant qu'ils avaient été mis en fuite par les Israélites, rassemblèrent toutes leurs troupes. Le roi Hadadézer envoya des messagers pour mobiliser les Syriens établis de l'autre côté de l'Euphrate. Et nous lisons par la suite de ce récit à nouveau cette coalition armée, plus grande encore, qui revient à charge pour ne pas perdre la face d'avoir été vaincue une première fois et qui tente de vaincre l'armée israélite. Verset 17, les Syriens se rangèrent en ordre de bataille pour affronter David. Ils engagèrent le combat. Mais ils furent mis en fuite par les Israélites. David leur tua 700 chevaux attelés au char et 40 000 soldats sur le char. Il frappa aussi Shobak, leur général en chef, qui mourut sur le champ de bataille. Quand tous les rois vassaux de Hadadézer virent qu'ils avaient été battus par Israël, ils firent la paix avec les Israélites et leur furent assujettis. Après cela, les Syriens n'osèrent plus venir au secours des Ammonites. Jusque-là, notre lecture. Seigneur, permet que ce texte nous enseigne quelque chose de ta volonté et que nous puissions entendre, écouter et mettre en pratique. Amen. Pourquoi Dieu permet-il que ce texte figure dans les Écritures ? Il serait aisé, en tout cas en prédication, de sauter le chapitre, même si je suis méthodiquement les chapitres, il serait aisé de sauter ce chapitre et de passer tout de suite au chapitre suivant, bien plus connu, qui va concerner l'histoire de l'adultère entre David et Bathsheba. Mais je m'interroge, quel est le message de ce texte pour ce matin ? Il me semble que la question qui nous est posée dans ce texte, c'est comment devons-nous agir quand nous sommes maltraités ? A-t-on le droit de nous défendre ? A-t-on le droit d'aller jusqu'au fait de prendre des armes quand il n'y a plus d'autre choix pour se défendre ? Et quand nous regardons ce texte attentivement, nous pouvons faire trois premières remarques. D'abord, on voit l'histoire d'un décès. Le pays voisin, chez les Ammonites, le roi décède, le fils va prendre le pouvoir. Les relations entre le père qui est décédé et David sont bonnes et David veut manifester de la compassion. Il envoie des ambassadeurs pour témoigner sa sympathie. C'est un acte personnel parce que David est bon. Et il dit qu'il veut témoigner de la bonté comme il en a reçu de la bonté. Donc c'est un acte personnel, mais c'est aussi un acte diplomatique. Il veut maintenir des relations de paix entre les deux pays. C'est sa mission, c'est sa tâche de faire en sorte que son pays puisse rester en paix avec le pays voisin. Aller souhaiter à la sympathie au fils qui prend le pouvoir maintenant, c'est une manière de dire « je veux garder la paix avec toi, je veux rester en paix avec toi ». Donc David, premier élément de notre texte, cherche à travailler en faveur de la paix, dans son rôle de souverain, dans son rôle de roi. Deuxième enseignement que nous retirons de ce texte, c'est que malgré toutes les bonnes intentions que nous pouvons avoir, nous pouvons parfois être mal compris. Nous pouvons chercher à vouloir faire le bien. Et la personne qui reçoit notre geste l'interprète mal, le comprend mal. Et peut même nous accuser d'avoir mal agi avec le geste qui pourtant était bien intentionné. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, d'avoir cherché à inviter quelqu'un chez moi. Et il a compris tout à l'envers et il m'en a voulu après. On peut parfois chercher à faire le bien et être mal compris. David se retrouve exactement dans cette situation. Le jeune roi qui monte sur le trône suite au décès de son père se fait très mal conseiller. Il y a des princes à la cour qui pensent que si David envoie des ambassadeurs, c'est qu'il a un motif caché. Il veut venir espionner le pays. Il veut venir prendre des repères dans la ville de manière à ce qu'il puisse un jour à nouveau prendre le pays pour lui. L'annexer, en faire un territoire de plus. Hanoun se laisse convaincre par ses mauvais conseillers. Il s'empare, il fait des otages, il s'empare de ses ambassadeurs et il les outrage. Il leur fait raser la moitié de la barbe et pour un juif, perdre la barbe, c'était impossible. Il leur enlève la moitié de la barbe, il coupe les habits jusqu'aux fesses, ce qui veut dire qu'il découvre les parties intimes. Et c'est une humiliation complète. Comment ces hommes, qui sont des hauts fonctionnaires de l'État, peuvent-ils rentrer chez eux ainsi ? Ce qui est intéressant de voir, c'est comment réagir dans une telle situation quand on est souverain. David aurait pu considérer que cette provocation méritait une riposte, méritait qu'on y réponde. Et au lieu de cela, il ne surenchérit pas, il n'appelle pas à la vengeance, il se tait, il laisse baisser finalement la tension. Et sa première réaction, c'est de se tourner du côté des victimes. Il s'inquiète pour elles, il s'inquiète pour leur honneur. Et il leur propose d'aller dans une ville située à la frontière, Jéricho, qui est peu peuplée encore, pas entièrement reconstruite, où ils pourront être relativement à l'abri, pour que leur barbe puisse se refaire et qu'ils puissent rentrer chez eux la tête haute. Donc nous voyons, premièrement, un David qui cherche à travailler à la paix, et deuxièmement, un David qui se préoccupe des gens qui sont là, qui sont les siens. Et troisièmement, parce qu'il y a une escalade au fil de ce texte, nous voyons que parfois, nous sommes amenés à prendre position et à agir contre la propagation du mal. Vous vous souvenez de Jésus, par exemple, qui est au temple et qui se met en colère contre les marchands du temple parce qu'ils font commerce dans la maison du Seigneur. Et alors, il va jusqu'à renverser les tables des marchands sans se soucier des pertes économiques qui sont entraînées par son acte. Et il opère là un geste symbolique, c'est une manière de remettre les bonnes priorités en place. Ici, la situation est un peu différente. Ce n'est pas un acte individuel qui s'opère. Nous avons deux nations qui s'affrontent. David, représentant d'Israël, Hanoun, représentant des Ammonites. C'est un État contre un autre État. Les Ammonites se rendent bien compte qu'ils ont été odieux à l'égard d'Israël et qu'ils risquent des représailles. Alors, pour anticiper une possible guerre, ils se préparent, ils vont chercher des mercenaires, des milliers de mercenaires. David l'apprend, il se rend bien compte que l'heure est menaçante. Il prend son armée de métier et grâce à la menace que cela représente, il réussit à mettre l'armée étrangère en fuite. Et c'est la fin des hostilités. Parfois, le fait d'avoir montré les muscles, d'avoir montré qu'on ne se laissait pas faire, peut suffire et peut permettre que l'autre n'attaque pas. Une démonstration de force ici qui permet que chacun rentre chez soi. Malheureusement, on voit bien que ça ne suffit pas. Les autres, ayant perdu la face, reviennent à charge. Et souvent, quand on est dans un cycle de violence, on voit que la violence engendre la violence, et encore plus de violence. Et ici, cette armée défaite, ces armées ennemies défaites, ne veulent pas perdre la face. Elles ont un certain orgueil. Alors, elles reviennent à charge, et David remobilise ses troupes. Il s'en va sur le champ de bataille, le combat s'engage. C'est la déroute chez les adversaires. Même le général en chef de l'armée adverse est tué. Il y a fin des hostilités. Mais à quel prix ? 700 chevaux sont tués, 4000 personnes sont tuées, 4000 soldats. La paix est retrouvée, mais il semble bien que ce ne soit pas une paix véritable, parce que la paix véritable, elle se fait entre des personnes qui sont égales et qui chacune trouve leur avantage. Ici, cette paix qui est instaurée, c'est la paix du plus fort contre le plus faible, c'est la paix du gagnant contre le vaincu. Et vous savez que quand le vaincu devient vassal du vainqueur, bien souvent il va chercher à nouveau à trouver une revanche. Il ne va pas rester dans son état de vassal. Ceci dit, on peut remarquer que David, qui prend les armes cette fois-ci pour se défendre, qui accepte qu'il y ait des morts, ne va malgré tout pas jusqu'à humilier l'armée ennemie. On peut, à ce stade de notre récit, nous demander, est-ce qu'il est correct que David accepte d'aller tuer d'autres hommes avec son armée ? Est-ce que la violence armée est légitime pour se défendre? Qu'est-ce que l'on fait du commandement qui dit « tu ne tueras pas » ? Dans ce texte, si nous le lisons attentivement, nous nous rendons compte qu'il n'y a aucune exaltation de la guerre. Contrairement à certains films, par exemple, que nous pouvons voir qui exaltent la guerre, ce récit n'exalte absolument pas la guerre. Ce qui est mis en avant dans ce récit, c'est le fait de maintenir la paix, de vouloir retrouver la paix. Donc, pas de célébration de la guerre, mais de la paix. Est-ce que pour autant, ça légitime l'usage de la violence pour se défendre? Et là, on est face à une question très difficile. Une question qui a divisé les chrétiens aussi, depuis presque toujours. Il y a d'une part certains chrétiens qui disent qu'il faut être non-violent, que le chrétien ne peut jamais avoir du sang sur les mains. C'est la position qui a été tenue très largement durant les trois premiers siècles du christianisme. On tendait à considérer que la participation à la guerre, c'était un péché. Et que celui qui avait participé à la guerre et qui revenait avec les mains ensanglantées devait faire pénitence. Origène dit par exemple, au IIIe siècle, qu'un chrétien ne s'entraîne pas à faire la guerre parce qu'il est devenu un enfant de la paix par Jésus qui est son chef. Mais à partir du IVe siècle, il y a une évolution liée au fait que l'Église devient une Église d'État, que la religion de l'Empire, c'est la foi chrétienne. Et dès lors, les souverains sont des souverains chrétiens et le peuple est un peuple chrétien. Et les questions se posent différemment. À partir de là, Augustin réfléchit à l'usage d'une guerre défensive, à la possibilité d'une guerre qui soit juste. Et il développe cette idée que dans certaines situations bien précises, l'autorité en place est légitimée pour prendre les armes afin de se défendre, afin de stopper le mal et de stopper l'injustice, afin de stopper l'agression païenne contre, finalement, l'empire chrétien. Le concept de la guerre juste suppose que celui qui va utiliser les armes ait un discernement sur la base d'une foi chrétienne. Donc, ça suppose que le souverain soit chrétien, que l'État soit chrétien aussi, et on est finalement dans une position assez proche de notre texte. David a foi en Dieu et son peuple est le peuple de Dieu. Alors, est-ce que sur la base du texte d'aujourd'hui, nous pourrions légitimer le concept d'une guerre juste, puisque David fait la guerre et qu'il n'y a pas une récrimination dans le texte à propos de l'attitude de David? J'aimerais réfléchir encore un peu avec vous. Si on devait légitimer l'idée d'une guerre juste, ça veut dire aussi qu'il y a des guerres qui sont injustes, qu'il y a des guerres qui sont inacceptables, qu'il y a des guerres pour lesquelles nous devrions dire non. Or, quand a-t-on entendu les chrétiens dire que la guerre n'était pas juste? Et quels seraient les critères d'une guerre juste? John Stott, qui a beaucoup écrit sur l'éthique, et notamment sur ces questions de guerre, essaye de décrire de manière plus précise les critères d'une guerre juste. Et il dit que pour qu'une guerre soit juste, il reprend ce qu'a dit Augustin, ce qui a été dit tout au cours du Moyen-Âge, hein, il essaye de l'expliquer. Et il dit, pour qu'une guerre soit juste, elle doit être défensive et non offensive. Elle doit avoir pour objectif la sauvegarde de la justice. Il faut que la guerre amène à pouvoir supprimer l'injustice. Il faut, en dernier ressort, que l'on protège des innocents, que l'on protège les droits de personnes qui ne peuvent pas se défendre. La guerre doit être entreprise qu'en dernier ressort, après qu'on ait échoué avec toutes les tentatives de négociation, des possibilités de conciliation. Et la guerre ne pourra être entreprise qu'après avoir déclaré formellement que nous allions l'entreprendre, c'est-à-dire après un ultimatum qui était prononcé par une autorité légitime. Or, les guerres d'aujourd'hui, constaterez qu'on ne les déclare pas à l'avance. On y va à l'improviste, par surprise, on ne donne pas de chance à l'ennemi. Par ailleurs, les intentions doivent être aussi pures que la cause peut être juste. Des motivations impures dans le fait d'entreprendre la guerre ne peuvent pas servir une cause qui serait juste. Donc on ne peut pas avoir de la haine quand on entreprend la guerre. On ne peut pas avoir de l'animosité. On ne peut pas agir par soif de vengeance. Sinon la guerre est injuste. Deuxièmement, dit John Stott, les moyens que l'on met en œuvre durant la guerre doivent pouvoir être contrôlés. On ne devrait pas assister à des actes de violence gratuits. Or, quelles sont les guerres où il n'y a pas des actes de violence gratuits? En fait, deux mots qualifient même l'emploi de la force légitime. Il faut que la réponse soit proportionnelle et qu'elle soit sélective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas infliger des dégâts plus grands que le mal qui était présent. La guerre ne peut pas engendrer plus de malheurs qu'il n'y en avait déjà. Si la guerre est juste, elle devrait pouvoir, à moindre coût ou quasiment sans coût, permettre de dire stop au mal et ne pas en engendrer davantage. Et par ailleurs, elle doit être sélective. On ne peut pas massacrer des innocents. On ne peut pas s'en prendre à des civils qui n'ont rien fait. Quelle est la guerre qui est juste? Troisièmement, l'issue de la guerre doit être prévisible. Il doit y avoir une chance raisonnable de remporter la victoire rapidement pour que le mal cesse. Or, presque tous les conflits contemporains s'enlisent, ne cessent pas, durent. Et vous voyez bien que c'est très compliqué, même si l'on veut émettre des critères pour dire qu'une guerre pourrait être juste, dans la réalité, quelles sont les guerres qui ont été justes? Quelles sont celles qui peuvent être considérées comme justifiables selon ces critères? Et qui va décider qu'une guerre est juste? Le gouvernant, le souverain, qui bien souvent aura des intérêts personnels, des intérêts pour défendre sa nation contre une autre nation. Son jugement ne sera pas impartial. Est-ce que du coup, le chrétien doit automatiquement accepter que son gouvernement entre en guerre sans rien dire? Je crois que tous les chrétiens qui ont réfléchi à la question peuvent dire ensemble, peu importe leur position sur ce thème, qu'une guerre reste toujours un mal, parce que la violence est un mal, et qu'une guerre ne peut jamais être glorifiée en tant que telle. Quand on y a recours, il faudrait vraiment pouvoir la justifier, mais comment le peut-on? Est-ce que les justifications sont raisonnables? Est-ce qu'en déclenchant une guerre, réellement, on va amenuiser le mal et permettre que le mal stoppe? Permettez-moi quelques exemples. Pensez à la guerre en Afghanistan contre le terrorisme, à celle en Irak ou à celle en Libye contre des dictateurs. Est-ce qu'elles répondent aux critères d'une guerre juste? Je crois qu'il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour dire que ces critères ne sont pas remplis. Et on peut se demander où sont les chrétiens qui ont dénoncé ces guerres? Qui sont ceux qui ont osé s'élever contre des positions d'injustice? Comment l'Église a-t-elle joué son rôle d'interpellation des pouvoirs politiques? Vous savez, la foi est quelque chose, bien sûr, de personnel, qui concerne ma relation avec le Seigneur. Mais ce matin, par ce texte, je crois que le Seigneur veut nous inviter aussi à penser de manière plus large. La foi implique une responsabilité dans ce monde. Et dans la responsabilité que le Seigneur nous confie dans ce monde, nous devons agir comme des acteurs de la justice et de la paix. Il y a des fois où nous ne pouvons pas nous taire, où nous devrions parler. S'il y a eu une époque dans l'histoire où nous aurions pu tester le modèle de la guerre juste, c'était peut-être le Moyen Âge. quand nous avions des souverains qui étaient chrétiens et des peuples qui étaient chrétiens, un peu à la manière de David et de son peuple. Mais comment se fait-il alors que ces souverains chrétiens, avec leur peuple chrétien, se soient battus entre eux, qu'ils se soient fait la guerre les uns contre les autres, chacun justifiant que sa guerre était juste, des deux côtés? Forcément, il y en a un pour qui ça ne pouvait pas être juste. Et rares sont les occasions dans l'histoire où réellement nous avons pu constater qu'une guerre aurait pu être juste. D'ailleurs, tenez compte aussi dans la réflexion de ce que dit Jésus. N'a-t-il pas enseigné ceci? Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Un chrétien, sur la base de cet enseignement, peut-il donc être amené à tuer un autre humain en toute bonne conscience? Et quand les guerres opposent des chrétiens à d'autres chrétiens, peut-il être amené à tuer un frère? Et si nous venons à dire que les guerres ne sont pas justes, la plupart du temps en tout cas, il faudrait accepter aussi que l'on refuse de mener la guerre et même que l'on accepte de perdre la guerre, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Mais n'est-ce pas l'attitude de Jésus qui a accepté de perdre le combat quand il allait à la croix, d'une certaine manière? Il n'a pas cherché à faire la guerre. Il a accepté les conséquences de perdre cette guerre-là, cette guerre humaine. Quelles que soient les convictions que nous ayons dans ce débat qui est difficile, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il y a trop de violence dans notre société et que nous avons un rôle à jouer en tant que chrétiens pour amener la paix dans un monde de violence. Lisez les journaux, observez autour de vous, il y a trop de violence. Comment pouvons-nous être des acteurs de paix? Comment pouvons-nous réduire la violence dans la société? Quels sont les métiers que l'on va embrasser pour travailler à cela? Comment pouvons-nous œuvrer dans ce monde pour être des vecteurs, des acteurs de justice? Jésus est venu pour vaincre le mal. Il a refusé d'entrer dans la violence. Comment peut-il être notre modèle aujourd'hui? Il a accepté d'être moqué, d'être injurié, d'être traité injustement. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas défendu quand on a voulu le clouer sur une croix. Il a opposé la paix et la justice de Dieu à l'injustice des ennemis. Et puis à ceux qui le suivent, il leur a dit ceci: portez ma croix. Portez ma croix. Et parce que les premiers chrétiens ont accepté de porter la croix du Christ, ils sont allés jusqu'au martyre pour rester fidèles à Christ. Ils n'ont jamais voulu prendre les armes quand ils étaient menacés d'être jetés au lion ou quand ils ont été menacés d'être brûlés vifs pour illuminer la ville de Rome. Alors, que doit-on faire quand nous sommes menacés d'être écrasés par la violence? Et j'aimerais répondre brièvement par trois points. Le premier, c'est sur un plan individuel. Que dois-je faire quand je suis traité injustement, que l'on me menace? Je crois que le chrétien ne devrait jamais, jamais recourir à la violence pour régler un conflit personnel. Il devrait suivre l'enseignement de Jésus et accepter d'être traité injustement s'il n'y a pas d'autre recours, si la diplomatie ne fonctionne pas, si le fait de ne pas surenchérir ne fonctionne pas, il doit accepter d'être traité injustement. Le deuxième point, c'est sur un plan ecclésial. Paul nous apprend que Christ est venu pour abolir le mur de séparation qu'il y avait entre juifs et non-juifs. Et à partir de là, il nous apprend qu'il ne doit plus y avoir des blocs, plus de guerres, plus de conflits au sein de l'Église. Et donc, quand il y a injustice, nous devrions travailler pour la justice, travailler pour la paix. Et l'Église est appelée aussi à agir non seulement en interne, mais à l'extérieur. Et elle devrait avoir la prudence de ne jamais bénir une guerre comme on a pu le voir dans l'histoire. Elle devrait proposer d'autres voies que la voie de la violence. Elle a un rôle prophétique à jouer. Et troisièmement, quand je passe du plan individuel au plan ecclésial et maintenant au plan étatique, qu'en est-il au niveau d'un État ? D'abord, est-ce que le chrétien peut s'engager dans des fonctions d'État ? Parfois, la réponse a été non au cours de l'histoire. Je crois qu'il l'est possible. Et il est possible qu'un chrétien soit engagé dans la police, qu'il soit gardien de prison ou qu'il s'engage dans le gouvernement. Et à ce titre-là, il sera chargé d'agir pour le bien de sa nation. Mais quand un gouvernement agit de manière injuste, quand un chrétien est appelé à agir injustement, contraint qu'il l'est par l'autorité qu'il sert, il devrait avoir le courage, à un moment donné, de tirer les conséquences de ce que l'État lui demande et peut-être de se retirer de ses fonctions. Est-ce qu'un chrétien peut s'engager comme militaire ? Chacun répondra pour lui, après avoir réfléchi à la question. Mais ce n'est pas tout évident de servir, par exemple, une armée qui possède l'arme atomique et qui, de ce fait-là, peut exercer une puissance et une influence et une pression sur d'autres qui, de ce seul fait de posséder cette arme-là, fait qu'elle ne peut de toute façon pas mener une guerre juste. Nous sommes en dehors des critères de ce que l'on peut considérer comme une guerre juste. Il y aurait d'autres questions à traiter, hein. Mais j'aimerais arriver gentiment à la conclusion. Je reviens à David. Était-il légitimé pour mener la guerre qu'il a menée ? Il faut considérer qu'on est dans un cadre spécial. Les guerres de l'Ancien Testament se passent dans un cadre particulier. Israël est une théocratie et à ce titre, elle remplit un rôle unique qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui. Nous n'avons pas de théocratie. Donc nous ne pouvons pas juste appliquer le modèle vétérotestamentaire de l'Ancien Testament à la situation d'aujourd'hui. Israël sert aussi de paradigme, de type pour décrire ce qu'est le combat spirituel, un combat qui nous est décrit dans le Nouveau Testament par Paul en nous parlant d'une réalité où nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations spirituelles de ce monde. Donc vous voyez qu'il y a une transposition de ces combats physiques dans l'Ancien Testament à une réalité spirituelle dans le Nouveau Testament. Je ne peux pas entrer dans tous les détails maintenant, mais si nous regardons attentivement le texte, nous voyons que même sans faire la transposition, le narrateur de notre récit est très circonspect sur ce qui se passe. Il ne donne en tout cas pas un chèque en blanc pour dire qu'une armée peut attaquer une autre armée. Il est plein de nuances. Il ne dit pas directement que Dieu cautionne cette guerre, même s'il laisse entendre que la prière de Joab qui disait « Seigneur, garde-nous dans ce combat et fais que ta volonté s'accomplisse » peut laisser entendre que Dieu ne l'a pas empêché ou a permis cette victoire. Mais il n'y a pas d'éloge de la guerre et pas d'approbation explicite. Donc on voit qu'on est dans une zone grise. On voit que la guerre est quelque chose de trouble. Et dans ce trouble de toute guerre, finalement, nous pouvons tirer un enseignement encore pour nous aujourd'hui et maintenant. C'est que David se montre comme un homme fidèle à Dieu. Un homme qui a le cœur généreux, un homme qui reflète d'une certaine manière l'attitude de Christ à notre égard. D'abord, il a manifesté de la bonté envers Hanoun, fils d'un ancien ennemi. Et au chapitre précédent, il avait déjà manifesté de la bonté envers l'arrière-fils d'un ancien ennemi. On voit que David n'hésite pas à aimer la descendance de ses ennemis. On voit qu'il nous enseigne à aimer nos ennemis. Et nous voyons là ce que Christ a fait pour nous. David représente aussi ce que Christ est pour nous. Christ nous a aimés. Il nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Nous avons voulu nous autoréaliser. Nous avons voulu mener notre vie sans Dieu. Et de ce fait-là, nous nous sommes séparés de lui. Notre péché a placé une barrière entre nous et Dieu. Et nous n'avons plus pu avoir la communion avec le Seigneur. Et malgré tout, malgré cette séparation entre Dieu et nous, Dieu a manifesté sa bonté à notre égard. Il nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, il ne nous a pas rejetés. Il ne nous a pas traités comme des ennemis, mais il a plutôt choisi d'assumer lui-même la conséquence qu'un ennemi doit porter. Jésus est allé jusqu'à la croix pour porter sur lui la conséquence que doivent assumer les ennemis de Dieu. À la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Dieu nous a manifesté son amour. Jésus a montré très concrètement ce que voulait dire aimer ses ennemis. Il l'a montré à la croix. Il l'a montré quand il a tendu l'autre joue, qu'il a refusé de répondre au mal par le mal. Il l'a montré quand il a accepté de souffrir, quand bien même cela lui coûterait sa vie. Il nous a montré qu'aimer son ennemi n'est pas une option pour le croyant. Cela fait partie de la condition chrétienne. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens si nous n'acceptons pas de suivre le Christ, d'aimer nos ennemis, de rejeter le mal et de porter la croix du Christ. Ce matin résonne pour nous cet appel, et je termine par là. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.